Radio Oméga, le journal.
Les titres de l'actualité. Abdoul Kader Konaté.
Au sommaire, adoption d'un nouveau texte sur la bonne gouvernance, le point des écoles fermées du fait de l'insécurité sont entre autres les sujets abordés au cours du Conseil des ministres tenu hier. Nous en parlons dans ce journal. Et puis, changement à la tête de la police nationale, Dieudonné Ouattara a été nommé directeur général de la police nationale. Nous parlerons également du procès Thomas Sankara avec l'audience qui s'est tenue hier avant d'être suspendue pour reprendre lundi prochain avec l'audience par vidéoconférence de témoins vivant à l'extérieur du pays. Au Mali, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, estime qu'une transition politique de 5 ans au Mali ne passe pas. Et enfin, au Sénégal, le bureau de l'Assemblée nationale a déclaré hier irrecevable la proposition de loi demandant la criminalisation de l'homosexualité. Voilà là pour les titres. Bonjour et bienvenue. Le Burkina Faso renforce sa coopération militaire avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. Cette année 2022, c'en est fini pour la malgouvernance grâce à un nouveau texte adopté au cours de cet hebdomadaire Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Le gouvernement a également fait le point des écoles fermées et la situation sanitaire qui se dégrade de jour en jour. Les détails de ce conseil avec Erwin Bayam et Charles Da.
L'insécurité, le point chaud de ce Conseil des ministres. Le gouvernement en a pris la décision de diversifier sa coopération avec la Turquie afin de pouvoir stopper l'avancée du terrorisme qui sévit sévèrement le Burkina. Alkassoum Maïga, porte-parole du gouvernement.
La mission avait pour objectif donc de prospecter des manières dont on peut diversifier la coopération entre nous et d'autres pays en matière donc de sécurité, parce qu'il faut effectivement se donner d'autres horizons possibles. Notre pays qui est en butte à une insécurité, comment est-ce qu'effectivement on peut entrer en coopération avec la Turquie? Et là, bon, nous a fait le point, il y a des perspectives intéressantes. Ils ont échangé par rapport à des partages d'expériences en matière de lutte contre le terrorisme et également des questions de formation, des formations en spécialisation et en perfectionnement en matière de sécurité.
Nous sommes à quelques mois des élections municipales prévues se tenir le 22 mai. Et pendant ce temps, certaines communes sont toujours sous l'emprise des terroristes. Le gouvernement invite l'ensemble des acteurs du dialogue politique à se parler. Alkassoum Maïga.
Les acteurs de ce dialogue politique-là devraient donc normalement se parler pour aviser par rapport à la suite à donner pour ce qui est donc de la tenue des élections. Donc nous avons une position qui est claire, qui est que on a des problèmes sécuritaires, on doit faire en sorte que nous soyons prêts pour que au bon moment, si les acteurs de la classe politique estiment que les élections peuvent se faire, on rentre dans la logique de ce que l'ensemble des acteurs auront décidé de façon consensuelle.
Le Burkina, en plus de l'insécurité, souffre aussi d'une irrégularité administrative et financière, d'où l'adoption d'un nouveau texte afin de bien gérer les ressources publiques. Alkassoum Maïga.
Donc c'est un texte devant promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des projets et programmes, quand on sait que des engagements ont été pris au niveau de notre gouvernement, de faire en sorte effectivement que le bien public et les ressources publiques soient gérés avec la vertu et la transparence qu'il faut. Donc ce texte va nous permettre donc au niveau des projets et programmes de contribuer à la gestion vertueuse du bien public.
La gestion des ressources publiques implique nécessairement la gestion de l'éducation des enfants. Sur les 3280 établissements scolaires fermés, le gouvernement a pu rouvrir 205 établissements au profit de 135 981 élèves réinscrits. Alkassoum Maïga, porte-parole du gouvernement.
Pendant ce temps, il y a eu quand même des réouvertures où 205 établissements ont été réouverts. Ça concerne 39 812 élèves et 1099 enseignants. Il y a également la question de la délocalisation où un certain nombre d'établissements ont été délocalisés. À nos jours, nous sommes à 25 établissements délocalisés. On peut dire aujourd'hui que le ministère a pu réinscrire 135 981 élèves à travers donc 3673 établissements dans l'ensemble du pays.
Le Conseil des ministres a marqué son accord sur le retour impératif des gestes barrières au regard de la recrudescence de la COVID-19 qui a malheureusement infecté 1005 personnes et a causé la mort de 15 malades.
Le Conseil a également procédé à un changement à la tête de la police nationale. En poste depuis avril 2017, Jean Bosco Kienou a été remplacé par Dieudonné Ouattara au poste de directeur général de la police nationale. Le nouveau DG fut directeur régional de la police dans le centre nord. Il avait également occupé le poste de directeur régional dans les Cascades. Quant à l'ancien directeur général Jean Bosco Kienou, il occupe désormais le poste de conseiller technique. Le directeur général de l'ONACER, l'Office national de sécurité routière, répond aux accusations d'un journal de la place, l'accusant de favoritisme envers certains opérateurs économiques. Dans sa parution, le journal a révélé que des camions de certains hommes d'affaires prenaient jusqu'à 64 tonnes de marchandises alors que le poids autorisé est de 45 tonnes. Adama Kouraogo pense qu'il faut contextualiser les choses car ceux qui l'accusent ont tiré une conclusion hâtive et hasardeuse.
Ces personnes, ce groupe de commerçants ont transformé leurs véhicules, ajouté le nombre de pneus. Et ça leur donne droit au Togo, où ils vont chercher leurs marchandises, de transporter jusqu'à 64 tonnes. Arrivés au Burkina, nous faisons fi de la modification qu'ils ont faite pour considérer les caractéristiques d'origine. Donc, ils ne peuvent transporter que 45 tonnes. Et leur démarche était de bénéficier du même traitement qu'ils ont au Togo, parce qu'ils sont des commerçants burkinabés, parce qu'ils approvisionnent le marché burkinabé, parce que le plus souvent, c'est du secteur informel, c'est des gens qui font de groupage. C'est des petits commerçants qui des chaussures de 10 kg, 20 kg et qui se constituent pour transporter. Donc le poids de l'infraction constatée au Burkina annule tout leur rendement. Et cette mesure, je pense que les autorités d'alors, avant même le ministre actuel, je crois que c'est une mesure qui date d'il y a plus de 6 ans, ont compris le bien fondé et ont accepté qu'on puisse les aligner au même traitement que le Togolais, le pays voisin les réserve. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui se faisait. Et quand moi je suis arrivé à la tête de l'ONACER, on m'a simplement, 6 mois après même, rendu compte de ce fait. J'ai dit, j'ai demandé les tenants, les aboutissants, m'ont expliqué. J'ai compris que c'était un soutien à l'économie.
On se rappelle également que face aux insuffisances constatées dans le mode de gestion des stations de pesage, l'ONACER a confié à un partenaire privé la gestion de 5 stations de pesage dans le cadre d'un projet pilote d'une durée de 3 ans. Quelques mois après son opérationnalisation, le bilan est satisfaisant. C'est du moins l'avis d'Adama Kouraogo.
Chaque année, nous contrôlons 200 000 camions, mais seulement 13% sont pesés. Cela montre qu'il y a des difficultés. Et les difficultés sont connues. Il y a les pannes récurrentes de nos stations parce que nous n'avons pas en interne les moyens de pouvoir les réparer immédiatement. Il y a également la méconnaissance et l'utilisation de cet outil due à la nature du personnel que nous avons. Nous avons pour ces tâches-là des forces de défense et de sécurité qui sont mises à la disposition de l'ONACER pour 3 ans. Et ces 3 ans, ils sont organisés en circuit. De telle sorte que 3 ans, c'est très peu. Et le fait qu'ils ne sont pas sédentarisés dans un poste donné fait que la maintenance et la prise en compte de l'environnement est souvent très difficile. Donc tout ceci nous a amené à mettre en place, à faire une étude qui a été commanditée par le conseil d'administration, et les conclusions nous ont confortés à l'idée d'aller à une expérimentation d'une forme, une autre forme de gestion, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes très satisfaits à l'heure actuelle des résultats, j'allais dire, primaires que nous avons dans ce projet, parce que ne serait-ce que quand vous prenez les stations qui sont déjà occupées par le concessionnaire, l'exemple de Tanguy Ndassouré, seulement Tanguy Ndassouré, en 5 mois, nous avons près de 58 000 véhicules qui étaient pesés et qui dépassent de loin, en 5 mois, qui dépassent de loin l'ensemble des camions pesés par, par les agents de l'ONACER en 2020 sur toute l'étendue du territoire.
Procès Thomas Sankara à présent. L'audition s'est poursuivie hier avec la lecture du procès verbal de l'audition de Nelly Nordor, médecin gynécologue, ancien ambassadeur du Ghana au Burkina Faso sous la présidence de John Jerry Rawlings. L'ancien ambassadeur du Ghana au Burkina Faso est revenu sur les préliminaires qui ont abouti au 15 octobre 87, suivant le compte-rendu signé Yakuba Wilio.
La lecture des procès-verbaux des témoins absents s'est achevée ce mercredi au tribunal militaire délocalisé dans la salle des banquets du Ouaga 2000. Parmi les derniers PV, ceux des anciens collaborateurs de Thomas Sankara, Valère Sommet, Henri Zongo, de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings et de son ambassadeur au Burkina de l'époque, Nordon Kelly. Lu par les greffiers, il ressort de ces dépositions que les événements du 15 octobre 1987 est le dénouement d'un complot poussé par des puissances étrangères. Selon Étienne Zongo, ancien aide-de-camp de Thomas Sankara, Blaise Compaoré était un recrue de Oufoué et aurait été protégé par les services secrets français. Sa position est soutenue par Nordon Kelly, ambassadeur du Ghana au Burkina à l'époque. Un vaisseau d'indices montre l'implication internationale dans les événements du 15 octobre 1987, avait affirmé le diplomate ghanéen au juge d'instruction. L'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, lui, est complot occidental face au juge d'instruction. Il dit avoir été choqué à l'annonce de la mort de Thomas Sankara. L'audience a été suspendue pour reprendre le lundi 10 janvier 2022 avec le début des auditions par visioconférence.
47 agents du ministère de l'Agriculture chargés du contrôle des engrais au Burkina Faso ont prêté serment au tribunal de grande instance de Ouagadougou mardi 4 janvier dernier. 47 agents dont la mission sera de contrôler les engrais utilisés sur le sol burkinabé pour une meilleure gestion et pour une agriculture saine et propre à la consommation. Le compte-rendu signé Pierre Badolo.
Au Burkina Faso, le secteur agricole constitue une composante importante de l'économie. Il contribue pour 35% du PIB du pays et emploie 82% de la population active. Environ 3000 tonnes d'engrais chimiques sont utilisées chaque année dans la production céréalière. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'intervient cette prestation du serment des 47 agents du ministère de l'Agriculture, dont la mission sera de contrôler les différentes qualités d'engrais au Burkina Faso. Pascal Zongo, directeur général de la production végétale.
Cette prestation de serment est instituée pour consacrer la prise de fonction de l'agent qui a été désigné, qui a été nommé et qui est engagé à contrôler la qualité des engrais fabriqués localement au Burkina Faso, importés ou commercialisés.
La mission des agents qui ont prêté serment consistera à répondre à une obligation vis-à-vis des populations et du gouvernement du Burkina Faso au contrôle de la qualité des engrais utilisés dans la production des denrées alimentaires. Pascal Zongo, directeur général de la production végétale.
L'agent qui prête serment pour assurer le contrôle des engrais répond à une obligation, comme je l'ai dit, mais également doit se consacrer entièrement, comme l'a rappelé donc le président du tribunal, dans sa dignité, dans son honneur et vis-à-vis aussi des attentes des populations du Burkina Faso par rapport au secteur de l'agriculture.
L'engrais est de nos jours le facteur déterminant au Burkina Faso à cause de la pauvreté des terres. Cependant, l'utilisation abusive des engrais et pesticides n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. En témoignent les derniers événements survenus en septembre 2019 qui auraient fait des victimes dans les régions du centre-sud et du centre-est du pays. La principale mission de ces agents va consister à contrôler la qualité physique, chimique, sur les normes d'étiquetage et d'emballage, la régularité de la production, de l'importation et de l'exportation. Ce sont entre autres les garants de ces 47 agents assermentés sur 4 janvier.
À l'international, au Mali, la rencontre entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le représentant de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, était attendue et aura duré près de 2 heures au palais présidentiel de Koulouba. Au sorti de cette réunion, l'ancien président nigérien a préféré rester discret sur les échanges, tout comme la présidence malienne, qui évoque sobrement sur Twitter, l'évolution de la situation politique au Mali et à des diplomates accrédités à Bamako. Goodluck Jonathan a clairement affirmé que la transition politique d'une durée de 5 ans proposée par la junte malienne ne passe pas, nous rapportent nos confrères de RFI. Selon toujours RFI, un membre de la délégation de la médiation a ajouté devant des journalistes que 5 ans de transition pour des putschistes, c'est par exemple plus que le mandat d'un président démocratiquement élu au Nigeria. L'envoyé spécial de l'institution sous-régionale a donc suggéré à ses interlocuteurs de revoir la copie. Et puis au Sénégal, le bureau de l'Assemblée nationale a déclaré hier mercredi irrécevable la proposition de loi demandant la criminalisation de l'homosexualité. Le texte, déposé en décembre par un groupe de députés de l'opposition, visait à durcir les sanctions existantes. Pour le bureau de l'Assemblée, il n'est pas nécessaire de modifier l'actuelle législation. Tous les Sénégalais connaissent la position définie et affirmée par le président de la République, peut-on lire dans son communiqué. Cette position est claire, pertinente et s'oppose à toute forme de dépénalisation et de légalisation de l'homosexualité.
Omega Sport.
En sport, on poursuit notre série de présentation des groupes de la CAN 2021. Après le groupe A, focus aujourd'hui sur les groupes B et C et on débute avec le groupe B composé du Sénégal, du Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Bernabé Cabré.
Pour sa 16e CAN, le Sénégal n'a qu'un seul objectif, devenir champion d'Afrique. Finaliste malheureux de la dernière édition, les Lions d'Aliou Cissé figurent parmi les favoris et ne pas être sacré champion d'Afrique serait synonyme de désillusion. Le président sénégalais Macky Sall l'a dit, être finaliste n'est plus un challenge, on veut la coupe. L'entraîneur sénégalais peut s'appuyer sur un groupe talentueux et expérimenté, du portier Édouard Mendy à l'attaquant Sadio Mané, en passant par le milieu de terrain du PSG Idriss Ngananguey, le Sénégal fait forcément peur. Pour se qualifier, les Lions de la Teranga ont fini leader de leur groupe qui comportait la Guinée-Bissau, le Congo et le Swaziland. Les Sénégalais ont fini leader avec 4 victoires et 2 nuls, 10 buts marqués et 2 encaissés. Le Zimbabwe jouera sa 5e CAN au Cameroun. L'équipe n'a jamais franchi le cap du premier tour. Les Warriors veulent cette fois-ci vaincre le signe indien. Mais les débuts seront difficiles face au vice-champion d'Afrique, le Sénégal. Pour être au Cameroun, les Zimbabwéens ont fini 2e derrière l'Algérie, mais devant la Zambie et le Botswana. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 6 buts marqués et 8 encaissés. Ramener la coupe ou restituer l'argent, c'est le message de Mamadi Doumbouya à Naby Keïta et sa bande. Mais les préparatifs n'ont pas bien débuté pour la Guinée, battue mardi par une équipe qui n'est pas qualifiée pour la CAN, le Rwanda, sur le score de 3 buts à 0. Deuxième de son groupe derrière le Mali et devant la Namibie et le Tchad, la Guinée vise au moins les quarts de finale. Elle sera amenée par son capitaine Naby Keïta, milieu de terrain de Liverpool. Revoilà le Malawi à la CAN. Après 12 années d'absence, les Flames valident leur ticket en finissant 2e de leur groupe derrière le Burkina Faso, mais devant l'Ouganda et le Soudan du Sud, avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites en marquant 4 buts et en prenant 5. Le Malawi est composé de joueurs évoluant à domicile en Afrique du Sud et en Éthiopie.
Le groupe C, quant à lui, s'annonce un peu plus relevé avec le Maroc, le Ghana, le Gabon et les Comores.
Le Maroc disputera la CAN dans la peau de favori. Pour sa 18e participation, les Lions partiront leaders d'un groupe qui comporte le Ghana, le Gabon et les Comores, considérés comme le plus relevé du premier tour. Sorti leader de son groupe de qualification avec la Mauritanie, le Burundi et la RDC, les Lions ont gagné 4 de leurs 6 matchs en éliminatoire, faisant 2 nuls et ne concédant pas de défaite, marquant 10 buts au passage et n'encaissant qu'un seul. L'équipe est composée de joueurs évoluant en Europe. Un seul joue dans le championnat marocain, le portier du Raja, Anas Zinetti. On retrouvera des joueurs du top 5 comme Yassine Bounou, gardien du FC Séville, Achraf Hakimi, défenseur du PSG, Sofiane Amrabat, milieu de la Fiorentina et Mounir El Haddadi du FC Séville. En revanche, Hakim Ziyech, milieu de terrain de Chelsea, a été zappé par le sélectionneur. Le Ghana est l'équipe la plus titrée du groupe avec 4 trophées. Il ne fait plus peur, mais suscite toujours la crainte des équipes qui le croient sur son chemin. Depuis 1982, le pays des Black Stars est à la recherche d'une cinquième étoile qu'il a laissé filer dans deux finales, en 1992 et en 2015, face à la Côte d'Ivoire. André Ayou et ses camarades n'ont pas eu du mal à valider leur ticket. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite et les voici leaders de leur poule devant le Soudan, l'Afrique du Sud et Sao Tomé et Principe. Dans le groupe, on retrouve le défenseur Jonathan Mensah, le milieu d'Arsenal Thomas Partey, Jordan et André Ayou, Wakaso Mubarak avec comme entraîneur le Serbe Milovan Rajevac. Les Panthers du Gabon, secoués par des problèmes de primes, à l'heure de s'envoler pour le Cameroun, une situation qui s'est faite ressentir lors des préparatifs avec une défaite 3-0 devant le Burkina Faso et un nul 1-1 face à la Mauritanie. Chez le voisin camerounais, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers veulent dire leurs mots, mais les choses s'annoncent difficiles avec les gros mastodontes comme le Maroc et le Ghana. L'équipe peut compter sur des atouts comme son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang qui joue à Arsenal, le vétéran Bruno Ekwele Manga, Mario Lemina et Denis Bouanga. Le Gabon, pour se qualifier, a fini deuxième de sa poule derrière la Gambie et devant la RDC et l'Angola avec 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Son entraîneur est français, Patrice Neveu. Le petit poussé du groupe s'appelle les Comores. L'équipe a obtenu son billet dans un groupe compliqué où on retrouvait l'Égypte, le Kenya et le Togo. En validant son billet avant la dernière journée, les Comoriens ont montré qu'ils ont grandi, eux qui se sont toujours cassés les dents lors des deux dernières phases qualificatives. Le football comorien vit ses plus belles heures et les joueurs viendront au Cameroun sans pression mais pour créer la sensation. Une grande partie des joueurs de la sélection évolue dans des clubs français. C'est notamment le cas du capitaine de Guingamp, Youssouf Changama, qui jouera sa première CAN à 31 ans.
Merci donc à Bernabé Cabré qu'on retrouvera demain pour le point des groupes D et E. C'est la fin donc de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.